Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface, Les Caprices de Thérèse. Dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, j'espère que vous avez passé un bon Noël. En tout cas, c'est la dernière grande hebdo de cette année 2025. Et on va la fêter ensemble comme il se doit avec, dans une poignée de secondes, Mayanne. Vous l'avez découvert dans la fiction J'irai au bout de mes rêves. Elle a été dans Danse avec les stars avec un parcours assez incroyable. Et c'est un livre maintenant écrit avec sa maman qu'elle va nous présenter dans une poignée de secondes. Grande spéciale au film Qui brille au combat. Qui brille au combat, c'est le film de Joséphine Japy qui raconte une histoire très personnel. La plupart du casting sera là. Félix Kizil, Pierre-Yves Cardinal, Joséphine Japy, bien sûr, et les deux héroïnes, Angelina Warrett et Sarah Pachoud, seront nos invités. Et puis en fin d'émission, on parlera de Enquête parallèle, avec un épisode en rediffusion cette semaine, mais surtout samedi prochain, un épisode inédit intitulé Liberté, Égalité, Fraternité, qui sera diffusé avec notamment Macha Merrill et Florence Pernel, qui seront nos invités avec le réalisateur Thierry Binisti. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer aujourd'hui pour cette dernière de l'année 2025 et surtout en inédit à 100%. Alors on commence maintenant dans Chut, on écoute la télé, la dernière de l'année.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, on va parler livre avec Mayanne, de l'ombre à la lumière, le livre de Mayanne et Sandrine Thévenon qui sont nos invités aujourd'hui. Bonjour Sandrine, bonjour Mayanne.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Mayanne, on a eu l'occasion de te découvrir dans J'irai au bout de mes rêves, mais c'était que le début d'une aventure folle pour toi, Danse avec les stars, un petit truc en plus. C'est aujourd'hui effectivement un livre raconté par ta maman, Mayanne, de l'ombre à la lumière, ma fille, mon rayon de soleil. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu la coqueluche des Français, Mayanne, quand même, Sandrine.
Je sais pas si c'est la coqueluche des Français, mais en tout cas, pour moi, elle a un parcours atypique. Je suis la première fan.
Nous aussi, on est fans. Mayanne, comment tu vis tout ça?
Je le vis bien.
Si on devait revenir sur ton parcours Danse avec les stars, qu'est-ce que tu en dirais aujourd'hui? Parce que je crois que tu es tombée sur la plus belle personne sur laquelle tu pouvais tomber pour faire cette émission, Christophe Licata.
Eh oui.
T'as vécu une belle aventure?
Une belle aventure.
Comment l'a vécu maman de l'intérieur avec Mayanne?
Au départ, un peu angoissée, parce que c'était quand même une première. Et puis bon, c'est pas, des fois c'est en direct en plus, mais plus elle avançait et plus j'ai trouvé ça magnifique, quoi.
Alors Sandrine, c'est vraiment l'histoire d'une petite fille pas comme les autres, racontée par sa mère, ce livre. On part de quand dans ce livre, clairement?
On part de la naissance. De la naissance jusqu'à Danse avec les stars.
Comment est venue l'idée, justement, de faire un livre sur l'histoire de Mayanne?
Alors moi je l'ai fait bien avant, je l'avais fait pendant le Covid, mais elle faisait pas du tout du cinéma. J'avais déjà écrit son histoire parce que du fait qu'il disait qu'elle ferait rien à la naissance et qu'elle avait deux CAP, c'était pratiquement deux CAP, j'avais déjà commencé à écrire déjà à la naissance. Parce qu'ils se sont trompés un peu les médecins.
Ouais, je crois, beaucoup même.
Donc en fait j'avais déjà écrit depuis le Covid déjà une bonne partie.
Tu te sens bien sur les plateaux de cinéma, Mayanne?
Oui, je me sens bien, oui.
C'est quelque chose que t'aimes particulièrement?
Oui, la caméra.
Un petit truc en plus, c'était dingue.
Oui, c'était vraiment dingue.
La rencontre avec Artus?
Ah bah c'est super bien.
C'était son acteur préféré. Hein.
Oui.
C'est vrai ? T'étais fan ?
Très fan. Elle était déjà fan avant. Hein.
Alors ça c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait te faire du coup.
C'est vrai.
Et puis alors 10 millions de téléspectateurs, de spectateurs en salle, je crois que c'était la cerise sur le gâteau.
Ouais.
Tu t'en es rendu compte ça ou pas ? Quand t'as monté les marches Festival de Cannes, est-ce que tu t'es aperçu avec toute l'équipe de l'engouement qu'il y avait autour du film ?
Pas trop pour elle, je pense qu'elle se rend pas vraiment compte de tout. Hein. Bon, elle était contente de monter les marches, mais elle se rend pas compte que c'est 11 millions de personnes qui ont été voir le film, elle se rend pas compte.
Alors, le livre, c'est un livre très personnel parce qu'on y raconte évidemment l'ascension de Mayan, mais aussi toute son histoire, histoire personnelle, histoire de famille, des fois bouleversante, parsemée d'embûches, comme dans beaucoup de familles. C'est vraiment un livre sans filtre.
Eh ben, c'est une thérapie que j'ai fait. Justement, je pense qu'il fallait l'écrire justement pour avancer encore plus.
Ça fait du bien ou pas ?
Oui, ça fait vraiment du bien.
Ouais. Il faut que la thérapie soit efficace après.
Oui, c'est ça. Non, franchement, ça m'a fait du bien et il fallait que je l'écrive.
Alors, est-ce que justement, maintenant que le virus de l'écriture est là et que le livre existe, est-ce que ça donne envie d'écrire peut-être une suite sur tout ce qui se passe pour Mayan ?
Ah bah, on verra. On peut. Bah oui, pourquoi pas.
Mayan, t'as des projets ? Est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver bientôt ?
Oui, très bientôt. Dans Je définis l'ange gardien, déjà.
Ouais.
On ne sait pas quand c'est qu'il va sortir. Et,
Non, parce que là, il tarde un peu à être diffusé. Il y en a quelques-uns en réserve, j'ai l'impression.
Oui, je sais. Sinon, bah, si elle a des projets, mais pour le moment, on ne peut pas trop en parler.
Qu'est-ce que t'aimerais faire dans l'idéal comme émission ? Est-ce qu'il y a d'autres émissions que t'aimerais faire ? Est-ce que, genre Massinger, est-ce qu'il y a d'autres émissions comme ça que t'aimerais, en tout cas, si là on t'entendait, que t'aimerais vraiment participer ?
Ouais, j'aimerais bien faire Massinger, et un film avec de la danse.
Ah bah oui, maintenant. Et alors, tu continues à danser un petit peu ou pas ?
Oui, je continue, oui. Je fais du hip-hop.
Du hip-hop ? C'est génial, ça.
Plusieurs années déjà.
J'adore.
J'imagine la fierté, Sandrine, de la voir en prime time comme ça, en direct, le soir, et de voir ce parcours sans faute qu'elle a fait, Mayan. Elle était jusqu'en demi-finale, c'est dingue.
En fait, c'est une battante. Bien sûr, je suis super fière d'elle, mais c'est vraiment une battante. Et là, je me suis rendu compte que vraiment, elle se battait contre elle-même hein, pour avancer. Et je trouve ça magnifique. Moi, il y a 4 ans, par exemple, elle ne faisait pas du tout de manège. Maintenant, elle fait les pires. Et elle a quand même fait sa Fort Boyard, le double saut de l'ange.
On va y revenir, c'est ça, sur Fort Boyard, auquel tu as participé l'été dernier. Comment t'as vécu cette expérience dingue ?
C'est vraiment bien, j'adore.
T'as eu peur ou pas ?
Non, vraiment pas.
Ah, plus peur de rien.
Ah non, moi, c'est moi qui me serais cachée.
Bon, en tout cas, on vous invite à découvrir ce très joli livre, Mayan et Sandrine Thévenon. Mayan, de l'ombre à la lumière. Mayan, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de toi. En tout cas, aujourd'hui, on a grand plaisir à te retrouver sur nos écrans. On a bien compris que tu serais bientôt dans un Joséphine Ange gardien et qu'il y a des surprises, en tout cas, nous attendent. Et on a lancé un petit appel. Alors, faut pas le crier trop fort, autrement, ils vont te découvrir très vite après les enquêteurs. Mais en tout cas, t'aimerais bien faire Massinger.
Voilà.
Bon, tout est dit. Merci beaucoup à toutes les deux.
De rien.
Avec plaisir.
Et à bientôt. Et ne bougez pas, on revient dans quelques instants avec toute l'équipe du film qui brille au combat. Nouveau film de Joséphine Japy qui sort mercredi dans les salles. Tout le casting est avec nous dans quelques instants. À tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Le rendez-vous des stars. C'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
J'ai au milieu de la foule. J'étouffe, mais tout le monde s'en fout. Chacun ses névroses et ses doutes. Chacun respire ou bien ses souffles. J'ai essayé de prendre l'air. Enlever les ongles de ma chair. Mes pensées dans une cage en fer. Dans mes poumons y'a comme du verre. Et quand tout redescend, ce son si stupide. Prends encore et je respire fort pendant qu'il s'endorme. Suis-je en tort de réfléchir trop fort? J'angoisse à mort et je respire fort pendant qu'il s'endorme. Je perds le nord, mais que fait mon corps? Il s'affole encore. J'angoisse à mort. Figé au milieu de la fête. J'étouffe, je suis pas encore prête. Je suis perdue dans leurs cigarettes. Je plane au-dessus de leur planète. J'ai essayé de plus penser. Me rendre sourde et puis danser. Laisser l'élan me guider. Mais j'ai peur, je sais pas où je vais. Et quand tout redescend, ce son si futile. ça reprend encore et je respire fort pendant qu'il s'endorme. Suis-je en retard de réfléchir trop fort? J'angoisse à mort et je respire fort pendant qu'il s'endorme. Je perds le nord, mais que fait mon corps? Il brûle encore. J'angoisse à mort. Trop fort, j'angoisse à mort et je respire fort. La nuit vaut de l'or, vais-je éclore ou fléchir encore si j'angoisse à mort?
Chute, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chute, on écoute la télé. Chute, on écoute la télé, le talk show radio, le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné cette semaine, qui sortira mercredi dans les salles, s'appelle Qui brille au combat, le premier film de Joséphine Japy. Et quel film! Bonjour Joséphine et merci d'être avec nous.
Bonjour, merci de me recevoir.
Pierre-Yves Cardinal est avec nous aussi, qui joue le mari dans le film, justement. Bonjour Pierre-Yves.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très très bien, Marine. Mélanie Laurent, qui donc ont Marion et Bertie. Bertie qui est atteinte d'un syndrome avec une errance médicale qui a duré de nombreuses années. C'est un film difficile sur un syndrome méconnu, mais alors qui nous emmène vers une lumière absolument incroyable. Et Joséphine, je te l'ai dit hein, juste avant de prendre l'antenne, mais c'est un véritable chef-d'œuvre pour un premier film. Je ne sais pas comment tu as fait, mais franchement, c'est magnifique. Donc c'est vraiment un film qui nous emmène avec tout plein d'émotions et un tourbillon absolument incroyable.
Bah merci beaucoup, qu'est-ce que je peux rajouter à ça?
Non mais je dois avouer en plus que le fait de savoir que c'est quand même ton histoire aussi, bon bah ça emmène plein de choses. Est-ce que c'est difficile justement de faire un premier film sur une histoire tellement personnelle aujourd'hui?
Non, je crois qu'au contraire, c'est quand même quelque chose que font beaucoup de personnes. Les premiers films, il y a plein d'histoires très personnelles. Enfin, j'ai l'impression que c'est assez fréquent. Ça peut être un peu tétanisant parfois, parce qu'évidemment, on veut rendre honneur, entre guillemets, à une histoire qu'on a vécue, à des gens qu'on connaît.
Et la rendre universelle par la même occasion?
Bien sûr, la rendre universelle, c'était hyper important que des gens qui ne connaissent pas nécessairement le handicap s'y retrouvent. Et je crois que, en fait, c'est à l'endroit de la famille et de l'amour inconditionnel qu'on peut avoir parfois dans une vie et de tout ce qui peut arriver de difficile. Ça peut être un poids, l'amour aussi. Et c'est ce que raconte le film. Et ça, je crois que tout le monde connaît un petit peu cette situation.
Raconte-nous qui est Bertie.
Oh, comment vous raconter Bertie? Bah, Bertie, c'est avant tout ma petite sœur. J'ai deux petites sœurs dans la vraie vie, donc il y a que deux sœurs dans le film. Mais Bertie, c'est donc ma petite sœur qui a vécu cette errance de diagnostic pendant 22 ans dans la vraie vie. Donc pendant 22 ans, on savait pas de quoi elle souffrait. Et c'est la seule dont le nom ne change pas dans le film. C'est la seule qui est peau à peau avec le personnage, sa représentation dans le film. Et c'est d'ailleurs le titre du film et son prénom, puisque dans Bertie veut dire celle qui brille au combat. Voilà, la signification du prénom Bertie, c'est celle qui brille au combat. Donc c'est le cœur battant du film et toute cette famille gravite autour d'elle, certainement un peu en écho à ce que j'ai pu vivre petite.
Pierre-Yves, quand on arrive avec un scénario, une histoire aussi personnelle à servir et que Joséphine a su rendre universelle, parce qu'aujourd'hui, toutes les familles qui aujourd'hui ont des enfants en situation de handicap ou en errance médicale vont pouvoir aussi se reconnaître, pas uniquement sur ce syndrome, parce que je crois qu'il y a 2000 personnes dans le monde qui sont atteintes du syndrome que Bertie souffre hein, aujourd'hui.
Oui, alors je crois qu'il y en a un peu plus. En fait, c'est absolument dingue, mais ça avance très très vite et heureusement, on trouve de plus en plus...
De plus en plus vite, on arrive à diagnostiquer.
De plus en plus vite. L'errance de diagnostic de 22 ans qu'on a vécu dans ma famille, c'est une rareté en fait. J'espère que ça ne se produira plus. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de messages de personnes qui me disent que leur petite a été diagnostiquée à 7 ans, à 8 ans. Enfin, donc c'est un vrai espoir pour moi à chaque fois que je vois ces messages sur Instagram. Sachez que je les regarde et que c'est un vrai espoir en tout cas. Mais surtout quand on agglomère en fait toutes ces maladies orphelines, toutes ces maladies rares, on arrive à un nombre absolument hallucinant, notamment même au niveau européen, c'est absolument dingue. En fait, ça concerne énormément de personnes. Et pas que des personnes en situation de handicap, puisqu'il y a aussi des errances de diagnostic sur d'autres maladies. Et ça, je l'ai réalisé il n'y a pas longtemps, puisque j'ai reçu des messages de gens qui me disent que ça ne concerne pas que les personnes en situation de handicap.
Pierre-Yves, quand on arrive sur une histoire aussi personnelle, comment on se prépare?
Ben, déjà, en discutant, on apprend plein de choses. C'est vraiment fondamental. Mais c'est sûr que c'est un plus de sentir qu'un projet est porté par quelqu'un pour qui c'est hyper important, hyper personnel, tu sais. Tu sais que tu vas être bien guidé là-dedans. C'est vraiment très précieux, en fait.
Parce qu'elle connaît parfaitement son sujet, du coup.
Oui, exactement. Exactement. Et pour un comédien, je veux dire, tu peux pas avoir une meilleure source d'information que quelqu'un qui a vécu la situation.
Alors, tu joues le papa de Bertie. Ouais. Toi, dans le film, ben, explique-nous un petit peu ton rôle, justement, comment tu le définirais?
Ben, Gilles est un père qui doit conjuguer avec plein de contraintes. Donc, évidemment, dans une famille où tu as un enfant comme ça, handicapé, aussi lourdement, ben, tu dois t'en occuper 24/7, tu sais. Donc, et ce que m'expliquait Joséphine, c'est que souvent, de façon naturelle, c'est la mère qui va rester à la maison. Moi, je l'ai tout de suite questionné là-dessus. Je disais, est-ce que t'as pas peur que, tu sais, on représente, tu sais, de façon classique, tu sais, la mère qui reste au foyer, le mec qui va chercher la thune, mais elle me dit, tu sais, c'est souvent ça, qui arrive, la situation se développe comme ça, et j'ai pas envie de mentir là-dessus. Donc, je trouvais que c'était très judicieux, en fait. Donc, c'est un père qui est pris avec cette responsabilité-là. Et quand il revient à la maison, il travaille énormément. C'est hyper important d'avoir une carrière qui fonctionne, évidemment, pour assurer les besoins de sa famille. Et quand il revient à la maison, ben, il n'y a pas vraiment de pause. Et donc, c'est très difficile pour un couple qui est dans une situation comme celle-là de s'épanouir, de trouver des moments à deux. Ça n'existe presque pas, en fait. Donc, on sent que... Enfin, je pense que c'est ce qu'on s'est dit avec Mélanie et toi, c'est que c'est un couple qui vit un véritable amour, mais qui n'a pas la chance de le laisser s'épanouir vraiment, tu sais.
Est-ce que tu as rendu le personnage de Pierre-Yves proche de ton papa, Joséphine?
Oh, c'est dur cette question. Je crois que...
Je l'ai plus éloigné justement pour le rendre plus universel.
Non, je pense qu'il y a évidemment plein de choses qui m'ont inspiré pour Marion, de moi, pour le personnage de Madeleine, ma mère, enfin, et puis évidemment pour le personnage du père aussi. Je voulais que ce soit aussi des entités à part entière, parce que pour que évidemment un film tende à être universel, je l'espère, il faut aussi que ce soit à un moment des acteurs qui s'emparent de rôle et d'une interprétation. Donc, à part cette grande ligne en fait qui est quand même trop malheureusement une réalité de la responsabilité du partage de la responsabilité parentale, d'ailleurs qui est pas du tout une fuite hein, pour plein de papas de devoir en fait s'occuper de la charge financière d'une maison, enfin c'est quand même voilà, avec
c'est
la pression
quelque chose de... qui existe, en fait.
C'est énorme.
Oui.
Donc il y a pas du tout de, comment dire, de hiérarchisation dans ce que je fais dans le film ou de jugement à cet endroit là okay. C'est une réalité voilà, mais je crois que je voulais vraiment qu'ils s'approprient ces personnages. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, mais ils n'ont pas nécessairement rencontré leur alter ego. Enfin, Mélanie connaissait un peu ma maman, donc il y avait un peu de triche. Et puis Angelina m'a rencontré moi, donc il y avait de la triche aussi. Bon, et puis Sarah a vu Bertie. Ah bon, ok.
Mais... Parce que ce qui est drôle quand même, Joséphine, c'est que tu as tourné sous la direction de Mélanie. Et là, ça a été dans l'autre sens ce coup-ci.
Ouais, tout à fait. Avec évidemment ce questionnement de l'envie de Mélanie de renverser la vapeur. Et en fait, elle s'est même pas poser la question une seconde, c'est-à-dire qu'à aucun moment j'ai senti autre chose qu'un rapport de moi réalisatrice à elle actrice, et j'ai trouvé ça fabuleux parce que la dernière fois qu'on a travaillé ensemble, c'était quand même l'exact opposé et tout a repris sa place de manière totalement naturelle. Donc non, c'était merveilleux, franchement. Si la question c'est est-ce que je me suis éclatée avec ces comédiens, enfin
ça a l'air en tout cas. Et puis bon, on peut pas passer à côté parce que faut qu'on en parle. T'as trouvé une pépite. Franchement, pour incarner Bertie, Sarah Pachou, elle est mais juste incroyable.
Elle est extraordinaire. Alors, ce qui s'est passé, pour vous faire un peu le chemin, moi, j'ai travaillé avec une directrice de casting géniale qui s'appelle Sandy Galan-Pérez, qui est une femme extraordinaire, qui connaît beaucoup le sujet du handicap, qui s'en occupe beaucoup au cinéma. Et je commence à lui parler en lui disant « Sandy, j'aimerais qu'on trouve quelqu'un en situation de handicap. J'aimerais qu'on commence là, en tout cas. » Donc on rencontre beaucoup de jeunes femmes en situation de handicap non verbal. Et évidemment, ça m'a mis face à ma responsabilité de me dire « je ne peux pas avoir quelqu'un sur mon plateau qui ne m'a pas donné son consentement, ça ne marche pas ». Donc on voit aussi des jeunes filles verbales avec des handicaps entre guillemets moins lourds, mais du coup je devais leur demander de régresser, c'est-à-dire de reprendre des habitudes pour lesquelles c'était parfois battu toute une vie pour ne plus les avoir.
C'est difficile ça.
J'y arrivais pas, et donc je suis un peu au bout du rôle à ce moment-là, en me disant je vais jamais trouver ma comédienne. Et là Sandy m'envoie une vidéo et je suis avec ma mère à ce moment-là. Et je la regarde et je suis extrêmement troublée immédiatement. Je montre la vidéo à ma mère. Les larmes lui montent aux yeux. Elle me dit « Joséphine, c'est elle. Tu l'as trouvée. » Voilà.
Elle est juste, juste dingue. Moi, j'avoue qu'elle m'a complètement bouleversée. La scène de la voiture, elle est juste insoutenable, mais et à la fois elle offre une prestation mais vraiment de haut vol. Sarah, vraiment bravo. Je crois qu'on peut redire encore son nom, Sarah Pachou, mais c'est une comédienne que vous allez certainement beaucoup entendre parler dans l'avenir, ça c'est sûr.
Ah ouais, elle est vraiment vraiment extraordinaire. Elle a fait un travail d'interprétation de dingue, parce que je trouve qu'elle elle incarne quelque chose de ces personnes en situation de handicap. Je pense que c'est une porte-parole extraordinaire, et voilà, je suis extrêmement touchée à chaque fois que je revois le travail qu'elle a fait sur le film. Elle est merveilleuse.
Profitez de ces fêtes de fin d'année pour aller voir Tous en famille, justement, qui brille au combat, premier film de Joséphine Japy. On va parler de Marion évidemment et de Thomas dans un instant. Angelina Vorette et Félix Kizil vont nous rejoindre. Joséphine, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, à 2 jours de la sortie du film ?
Qu'il soit vu.
Qu'il soit partagé au plus grand nombre.
Qu'il soit partagé au plus grand nombre et que cette famille soit entendue. Voilà.
C'est un beau mot de la fin. On écoute la bande-annonce qui brille au combat. C'est mercredi au cinéma et on revient dans un instant. Merci à tous les deux.
Merci.
Il était une fois un petit monstre d'un autre univers. Elle lui dit: mais tu n'es pas un monstre. Personne ne te connaît.
Comment ils font tes parents avec ta sœur? Entre eux, ils ont plus de vie, non?
Et moi, tu te demandes pas comment je fais?
Elle peut mourir d'une seconde à l'autre et... bah, on se débrouille avec ça.
Chaque jour, c'est un miracle.
Allez, qui brille au combat, ces deux films donc à ne pas rater, c'est mercredi dans les salles. On est rejoint maintenant par Angelina Vorette qui est avec nous. Bonjour Angelina.
Bonjour.
Qui joue le rôle de Marion, et Félix Kizil qui est avec nous également, qui joue le rôle de Thomas. Bonjour Félix.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, une histoire aussi personnelle, comme on le disait, voilà, avec Joséphine il y a quelques instants, Angelina. Est-ce que ça met une pression ou pas? Est-ce que t'en as beaucoup discuté justement avec elle?
Non, pas vraiment, parce que Joséphine, elle a vraiment traité le rôle et le film d'une manière générale comme une fiction, qui est bien sûr inspirée de sa vie et de ce qu'elle a vécu. Mais en fait, moi, j'ai vraiment approché le personnage comme voilà, un vrai personnage qui n'était pas basé sur elle, quoi. Donc non, ça m'a pas forcément mis de pression, mais je pense que c'est surtout grâce à Joséphine et la douceur qu'elle a mis dans le projet et dans sa direction d'acteur, quoi.
On sent qu'il y a eu une immense douceur sur toute l'histoire, sur tout le film. Est-ce que sur le tournage, ça a été un peu la même ambiance, justement?
Oui, franchement, ça a été un des tournages... franchement, je pense le tournage le plus sain de ma vie. Il y avait beaucoup de douceur, il y avait une atmosphère vachement familiale. Et on s'est tous hyper bien entendus avec Félix, Sarah, tous les comédiens et même l'équipe technique. Et je pense que ça se retranscrit un peu dans le film.
Angelina, comment tu le définirais, toi, le rôle de Marion, juste avant qu'on parle de celui de Thomas après?
Je pense que c'est une jeune fille en quête d'émancipation qui a grandi un peu vite à cause de sa situation familiale et notamment sa sœur Bertie, qui navigue dans ses responsabilités familiales et en même temps une envie d'être une jeune fille comme les autres.
Et pourtant, on sent un amour tellement fort pour Bertie.
Bien sûr, un amour énorme de sœur, et le fait qu'elle soit en situation de handicap rajoute... voilà, le côté protecteur qu'ils ont tous pour elle, quoi. Mais bien sûr, un amour très fort, inconditionnel.
Alors, est-ce qu'on parle de Thomas un petit peu, mon cher Félix? Parce que alors, lui, on va dire que c'est pas le personnage le plus gentil dans l'histoire, quand même. Ils vont faire voir un petit peu à Marion, quand même.
Ah oui, complètement. Bah, c'est un personnage qui va d'abord servir à Marion de trajectoire extérieure à cette famille, d'échappatoire aussi. Puis qui va devenir, en fait, un combat de plus pour elle. Il y a un côté un peu coming of age dans leur histoire, mais un coming of age, pour le coup, pas très lumineux, par tous les aspects très pervers de Thomas.
Partage énormément de scènes avec Sarah. Pour le coup, Angelina, j'étais complètement bluffé, bouleversé par ce qu'elle a proposé. Quand on a une comédienne qui envoie un truc pareil face à soi.
En fait, ce qu'il y a d'aussi très déstabilisant, c'est que Sarah Pachou, c'est donc une comédienne qui n'est pas en situation de handicap. Donc il y a vraiment un décalage entre le moment où on est à la cantine toutes les deux et le moment où elle joue, où vraiment elle se laisse aller et elle nous a fait aussi beaucoup confiance. Parce que elle bougeait vachement, voilà. Il y a plein de moments où elle a des gestes un peu violents et tout ça. Et on a vraiment tout chorégraphié avec Joséphine avant le tournage pour que ça soit le plus réaliste possible. Non, franchement, ça a été hyper impressionnant de voir ce qu'elle a donné au rôle. Sarah, c'est quelqu'un qui a fait du cirque avant. Et je pense que certainement dans le corps et tout ça, ça a une certaine aisance qu'elle a. En tout cas, non, c'est un travail magnifique qu'elle a fait.
Parce que Bertie s'exprime beaucoup par les gestes justement et par le corps, quoi. C'est vraiment le corps qui parle et c'est totalement bouleversant ce qu'elle a donné. Est-ce qu'il y a une scène particulière qui vous a marqué, alors tous les deux, que ça peut être une des vôtres ou pas? D'ailleurs, Félix, quand t'as vu le film la première fois?
Moi, la scène qui me marque énormément, c'est une scène qui arrive un peu aux trois quarts du film, je dirais, où le personnage de Bertie a une crise de douleur. Et là, j'avoue que je l'ai vu deux fois le film et les deux fois, ça m'a effondré.
Je suis assez d'accord. Dans la voiture, c'est ça? Ouais, ouais, moi, pareil. Angelina?
Il y en a eu tellement, mais notamment le moment où Marion va passer son bac le lendemain et que Bertie fait une crise de douleur dans la chambre. C'était violent à voir, même si bien sûr on joue et c'est un film. Ça reste quand même violent à voir et comme je vais la pousser par terre et tout ça, c'était et dans le film au montage et tout ça particulier et à tourner. Il y a eu ça, mais il y en a eu tellement des scènes de violence entre Thomas et Marion. Des mots durs qu'il a pour elle, même physiques, hein, il y a des violences physiques. Dans le film, quand je les vois, ça me choque beaucoup, quoi.
On a envie d'y mettre des claques à Thomas.
Ouais, c'est ça. Non, on a envie qu'il disparaisse, quoi. Surtout qu'il reste loin d'elle.
Mais bon, Félix est tellement gentil, donc on est content.
Voilà. Bah merci, c'est vrai que c'était... Bah il faut les jouer ces personnages, il faut bien les jouer, il faut les jouer de manière très juste, très premier degré, et on est obligé d'y aller à fond. C'est vrai qu'il y a des choses, quand on rentre chez soi le soir, on n'a pas joué à un héros, quoi. Donc ça peut être prenant, mais je suis très fier d'avoir joué ce personnage pour... aussi donner la parole déjà au personnage de Marion.
Servir la cause du film aussi, parce que il y a une vraie cause, il y a aussi une universalité pour les familles qui peuvent traverser ce genre de choses, et pas uniquement sur ce syndrome-là, mais sur plein d'autres qui peuvent se reconnaître justement grâce à vous. Donc c'est ça qui est vraiment chouette de faire un film comme celui-là, quoi.
Ouais, j'espère que ça touchera le maximum de gens, mais effectivement les histoires de famille comme ça où voilà, il y a juste une personne qui souffre et ça se répercute sur tous les autres. Je pense que ça peut toucher tout le monde. On espère que le film va toucher les gens.
J'en suis sûr en tout cas. Je n'en doute pas une seconde. Vos projets pour 2026?
Ben moi, j'ai un film que je vais tourner en 2026, mais qui n'est pas encore tourné. Donc voilà.
Ça va venir. Voilà, c'est une belle année qui se prépare. Et pour toi, Félix?
Et moi, je vais avoir une sortie. J'ai fait un film d'Antonin Baudry qui s'appelle De Gaulle, avec Simon Abkarian. Voilà, ça va sortir. Et ce que
il y aura deux tomes d'ailleurs. Hein. Il y aura deux films qui sortiront à quelques semaines d'intervalle.
Exactement. Et ce que je peux te dire, c'est que je vais faire le prochain film de Sarah Succo. Voilà. Et d'autres projets. Après, un film avec Marco Lavilla et Anna Ladoul aussi.
C'est chouette, ça n'arrête pas. Et puis en attendant, qui brille au combat? Hein, n'est-ce pas? Ça, c'est mercredi. C'est au cinéma, le premier film de Joséphine Japy, qu'on vous conseille vraiment, voilà, d'aller voir en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux, et puis on vous dit à bientôt.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Vous avez fait un chemin incroyable avec Bertie. Vous vous rendez compte? On va essayer de poser un diagnostic. On voit et on avance.
Il faut que tu prennes bien, Marion. Tu dois penser à toi. Sinon, un jour, tu vas en avoir marre.
Notre vie, en fait, c'est juste s'occuper d'elle. Je lui parle, elle me répond jamais. Je la prends dans mes bras, elle ressent rien. Je me dis que même la mort, ça lui fera pas mal.
Voilà, qui brille au combat. En tout cas, c'est notre coup de cœur ciné cette semaine. Ça sort mercredi dans les salles. Premier film brillant de Joséphine Japy qui vient de me faire une énorme surprise avec Angelina Waretz. Elles viennent de me rejoindre toutes les deux avec celle dont on dit le plus grand bien depuis 20 minutes. Et ça tombe bien puisque je crois que vous avez une surprise. Joséphine et Angelina sont là, sont de retour.
Tout à fait. On est pleine de surprises. On est venu avec une tierce personne. Est-ce que tu veux annoncer qui c'est, Angelina?
Eh bien, c'est Sarah Pachou qui interprète le rôle de Bertie dans Qui brille au combat.
Et oui, et Bertie, quand vous allez la voir justement dans le film mercredi, vous allez certainement être ému aux larmes en la voyant, et vous allez voir que même moi je me suis demandé, mais j'ai dit mais elle est incroyable, et je suis très heureux en tout cas de me fassiez cette surprise à deux jours du premier de l'an comme ça. Bonjour Sarah, merci d'être là.
Bonjour, merci à vous.
Alors Sarah, c'est vrai que moi la première chose que j'ai envie de te demander, c'est comment on se prépare à un rôle comme celui de Bertie.
C'était beaucoup d'exercices avec Joséphine et Angelina, beaucoup de temps passé avec Bertie, la vraie aussi, et d'autres enfants atteints du syndrome de Phelan-McDermid. Voilà, on a beaucoup découvert cet univers en amont du tournage, et puis ensuite c'était beaucoup dans la création d'un rapport qui serait le nôtre, quoi, avec Angelina, et puis ensuite avec Mélanie, beaucoup aussi.
Joséphine est quelqu'un qui met beaucoup en confiance. Et est-ce que toi, ça te met une pression, le fait que on parle de sa petite sœur à Joséphine?
Non, pas du tout une pression, une responsabilité, parce que c'est quelqu'un qui existe et qu'on parle d'un... Même si on n'essaye pas de la représenter tout à fait fidèlement, on parle d'un syndrome qui existe et qui, voilà, qui touche des personnes réelles. Donc évidemment, c'est important, mais pas du tout une pression, parce que c'était un personnage fictif et que Joséphine a créé une distance... suffisante et nécessaire à ce qu'on soit tous très libres dans nos interprétations, même si ça fait référence à une famille réelle, quoi.
Je sais même plus si on en a parlé il y a quelques instants, mais Joséphine, puisqu'elle est là devant Sarah, qu'est-ce qui t'a fait choisir Sarah? Qu'est-ce qui t'a plu en elle? Qu'est-ce qui t'a fait dire c'est Bertie?
C'est totalement indescriptible, en fait, une rencontre avec ton personnage. Il y a un moment où, en fait, il y a quelque chose de l'ordre de l'instinct, que ce soit pour Sarah ou pour Angelina, d'ailleurs, c'est un rapport instinctif où, en fait, tu sens que avec ces personnes, tu vas trouver quelque chose d'intéressant pour ton film et surtout tu vas réussir à collaborer et à travailler avec elle. Moi, c'était ça, en fait, la première idée. Et d'ailleurs, je les ai certainement aussi choisis pour tous les moments de surprise qu'elles m'ont apporté. C'est-à-dire que moi, j'avais besoin aussi, quand t'as tes référentiels comme ta mère, ta sœur, enfin, il y a un moment, faut en sortir un petit peu et faut se laisser surprendre. Et surtout, moi, ce que j'adore avec ce que font les filles et ce que propose Sarah, parce qu'il y a cette idée quand même d'une personne non handicapée qui joue quelqu'un d'handicapé. C'est une grande responsabilité, c'est très compliqué. Je sais que ça soulève beaucoup de débats. Là, on est sur une maladie génétique rare particulièrement lourde où, en fait, prendre quelqu'un en situation de handicap, c'était pas possible. Et Sarah est allée prendre ce personnage avec beaucoup d'humilité. Elle s'est vraiment fait la porte-parole humble et sincère de ce personnage de Bertie. Elle a jamais essayé de créer une performance. Et ça me paraissait hyper important. Parce que si tu essaies de faire une performance avec un personnage comme celui-ci, je pense que ça sonne faux. Et je pense que là, ça devient... Sincèrement, indécent, en fait. Et je trouve que ça, c'est l'intelligence des filles, d'être allées dans cette fibre tout en humilité, avec beaucoup de douceur et beaucoup de justesse. Et voilà, je sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je crois que c'est tout ça que je cherchais, en fait, avec elle.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes de détresse, mais il y a aussi beaucoup de scènes de lumière. Il y a beaucoup de scènes des fois de colère. Et puis il y a à la fois cette tendresse infinie entre vos deux personnages. Il y a beaucoup de scènes entre toi, Angelina, qui joue Marion, et Bertie, toutes les deux. Comment vous les avez abordées ensemble, ces scènes-là, Angelina?
Eh bien, de manière assez organique et simple, en fait. On s'est pas posé tellement de questions, enfin, je sais pas comment expliquer, mais alors évidemment, on a passé du temps ensemble avant de tourner le film, on a appris à entrer en contact physiquement toutes les deux pour que la glace se brise sur le plateau. Évidemment, c'est plus simple de le faire avant le tournage. On a travaillé des chorégraphies pour que ça semble réel, le fait que j'ai l'habitude de l'habiller, de faire tous ces mouvements qui sont au quotidien pour le personnage de Marion. Mais une fois sur le plateau, j'ai l'impression que ça s'est déroulé tout seul, en fait. C'était assez organique. Avec Sarah, on était très complices et je sais pas, ça s'est fait comme ça, en fait. Je parle pas pour toi, mais en tout cas, personnellement, je l'ai pas tellement intellectualisé.
Quelque chose d'assez naturel, Sarah?
Oui, non, mais complètement, ça s'est fait. Enfin, même, en fait, j'ai le souvenir de plein de scènes qui étaient pas forcément dans le scénario, juste qui ont été piochées par la caméra, parce que c'était, en fait, au bout d'un moment, ça devenait vraiment facile, quoi. C'était. Enfin, je veux dire, quand Angelina était en Marion et que j'étais en Bertie, ça devenait naturel de coexister de cette manière, quoi. Donc, sans parler, donc forcément en se touchant, enfin, c'était comme ça, quoi.
Elles disent facile. Moi, je tiens à dire quand même qu'elles ont bossé mine de rien, hein, parce que avec tout ça, toutes ces rencontres qu'on a fait, tout ce travail qu'on a fait, elles ont rencontré Bertie. Mais en fait, c'est ce qui est très fort, et ce qui est très fort entre les filles, c'est qu'en plus de ça, elles ont une espèce d'intelligence émotionnelle, parce que t'as le travail des comédiennes, mais après, t'as l'intelligence du plateau. Et ça, ça s'invente pas. C'est-à-dire que t'as des gens qui arrivent sur le plateau et qui vont ficher en l'air tout le travail fait auparavant, parce qu'ils sont pas capables de recréer une... ce qui était nécessaire pour ce personnage. Il y avait une connivence, c'est une histoire d'amour entre sœurs, c'est une histoire de sororité, c'est une histoire d'amour inconditionnel. Et les filles ont eu l'intelligence de trouver ce lien entre elles, de le créer et de le maintenir pendant tout le tournage.
Mais t'as dû beaucoup les aider quand même aussi, ça a dû de t'avoir, je pense, à leur côté, toutes les deux, je pense que ça a dû être vraiment quelque chose pour elles d'hyper rassurant.
Je vais pas parler à leur place. Pour le... Si, non mais enfin, il y a... selon les metteurs en scène, l'ambiance est vraiment différente, je trouve, sur les plateaux. Et Joséphine, il y avait ce truc de, on était complètement confiance. Enfin, je me suis jamais, enfin, je sais pas, j'avais jamais peur de mal faire ou de proposer quelque chose à côté de la plaque. Et en même temps, elle a cette présence pas du tout interventionniste qui faisait qu'on avait complètement la place de créer un lien entre nous et que la caméra serait là pour capter ça et que c'était pas à chaque fois, il fallait pas sortir les rames entre la vie et l'action, quoi.
La bienveillance, en tout cas, qu'on sent entre vous, et ça, c'est chouette. Sarah, justement, il y a beaucoup de choses qui passent par le corps. On parlait du corporel, mais dans tes scènes, il y a énormément de choses qui passent par le corps, par les yeux, par le regard aussi. Il y a quelque chose presque de magnétique qui nous emmène vers Bertie et qui nous donne cette empathie qu'on a envers elle, tout en comprenant effectivement Marion, hein, qui des fois essaye un peu de s'en détacher, qui essaye un peu de voler de ses propres ailes. C'est pas facile quand on est dans une famille comme ça. Et à la fois, ce personnage, tu l'as emmené mais tellement loin qu'on se dit que, est-ce qu'il y a des scènes qui ont été particulièrement difficiles pour toi? T'as dû être rincé certains soirs.
Bah oui, je me souviens très bien du premier week-end de tournage. On a commencé un jeudi, je crois. On a fait jeudi, vendredi. Le vendredi soir, je me suis dit, bah c'est fini, la fin de tournage, c'est trop dur. Ça n'ira pas plus loin. Mais bon, finalement, on a fini le film. Mais oui, y a eu des scènes plus éprouvantes que d'autres. Je pense à celles qu'on a tournées dans la masse, avec d'autres enfants qui étaient vraiment handicapés et leurs parents. Donc là, c'était très réel. Puis même en termes de tournage, ça a changé complètement le dispositif. On était avec le chef opérateur, un ingénieur du son, mais c'était vraiment une équipe très très réduite. Et puis du coup, on se retrouvait confronté à... C'est un peu l'épreuve du feu, quoi. Confronté à la réalité de ce qu'on essayait modestement de représenter. Donc c'était une scène assez marquante, je pense, pour tout le monde. Mais oui, par rapport à la corporalité, je sais pas, ça s'est fait au fur et à mesure, quoi. C'était un autre usage de chaque partie du corps, mais enfin, il y a des choses que j'ai pas du tout réfléchi, dont je me rends compte maintenant en découvrant le film au cinéma. Je remarque que j'ai beaucoup les yeux en l'air. C'était pas du tout quelque chose que j'ai réfléchi. C'est quelque chose sur le moment. Je faisais ça pour éviter de croiser le regard des gens, parce que ça me connectait directement à eux. Il y a quelque chose de cette connexion, ce qui se fait pas, j'ai l'impression, dans le rôle de Bertie. Donc c'est...
Tu t'es pas rendu compte tout de suite de ce que tu faisais, de ce que t'étais en train de faire et d'accomplir?
Non, je vivais pas comme ça, quoi. Je sentais que j'avais des... ma perception était déplacée dans des très concentrés, dans des centres inhabituels. Genre, j'ai très conscience de mes sourcils, des fois, ou de mes oreilles, enfin, des trucs pas habituels dans la vie. Mais du coup, je découvre l'effet que ça produit à l'image... après coup, quoi.
Bon, en tout cas, moi je vous dis, c'est le film à ne pas manquer en cette fin d'année. Il sort mercredi au cinéma. C'est notre dernier coup de cœur de l'année 2025 et certainement un des plus beaux, en tout cas, qu'on vous conseille d'aller découvrir en salle. Merci infiniment pour ce beau cadeau à 2 jours du premier de l'an. Nous, on vous souhaite plein de belles choses, une belle fin d'année. Merci Angelina, merci Joséphine, merci beaucoup Sarah, merci à Félix également et à Pierre-Yves qui était avec nous aussi il y a quelques instants. Merci à vous tous, en tout cas, pour cette belle spéciale. À bientôt.
Merci à vous.
Merci.
Merci beaucoup.
Pour tenir, je me dis que son monde, il est merveilleux. Et qu'on en fait partie. C'est comme ça que je tiens. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?
Allez, ne bougez pas, on parle de Enquête Parallèle, épisode inédit samedi soir sur France 3. Thierry Benisti, Macha Meryl et Florence Pernel nous rejoignent. Dans Chut, on écoute la télé, à tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé. Samba, toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé est consacré à Enquête Parallèle qui va s'offrir une contre-programmation pour ce réveillon du nouvel an puisque vous allez pouvoir redécouvrir peut-être ou découvrir un épisode en rediffusion mercredi mais surtout samedi. C'est un épisode inédit qu'on va pouvoir découvrir sur France 3 avec Florence Pernel qui est avec nous. Bonjour Florence.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Florence. Alors, on va parler évidemment de cet épisode qui s'appelle Liberté, Égalité, Fraternité, mais il y a deux inédits qui arrivent, hein, puisqu'il y en aura également un le 10 janvier. C'est vrai qu'Enquête Parallèle, on s'ennuie pas, il y a toujours des sujets importants qui sont évoqués. Et c'est vrai que La Folie de Fred, ben on l'aime comme elle est, hein, Fred. Hein.
La folie, c'est peut-être un grand mot, je dirais l'originalité, la fantaisie, la folie, c'est...
Oui, fantaisie, c'est, oui, c'est vrai que fantaisie, ça va mieux.
C'est un peu fort, la folie, mais non, la fantaisie, disons, les chemins de traverse qu'elle utilise, puisque comme elle est journaliste, c'est pas une femme de loi, elle a pas la loi pour elle, mais elle a, je dirais, la connaissance du terrain, le côté intrépide, et comme c'est une ancienne reporter de guerre qui ne l'est plus depuis un moment, puisque à la suite de la rencontre avec une petite africaine qu'elle a adoptée. Elle est devenue maman et elle a arrêté d'être reporter de guerre parce que ça devenait trop dangereux. Et donc, en fait, c'est une, je dirais que c'est une journaliste de campagne, quoi, une reporter de province qui va justement dans les campagnes, etc. Et donc, il y a une empathie immédiate et une sympathie, et surtout qui connaît sa région, qui connaît son territoire, qui connaît bien les gens et qui a un accès, je dirais, très direct et sans appréhension, et les gens ont un accès facile à elle aussi. Donc, ça lui permet de prendre des chemins de traverse pour trouver la vérité, quoi, parce que c'est son obsession, la vérité.
Et oui, c'est ce que la commandante Bello, la nouvelle commandante, qui est incarnée par Isabelle Vitari dans cet épisode, va vite s'apercevoir que Fred va lui être indispensable, même si ces deux femmes vont être un peu un couteau tiré au départ.
Voilà, exactement, puisque elle, c'est une femme de loi, c'est une gendarme. Donc, évidemment, elle s'appuie sur la loi, ce que ne fait pas Fred. Mais en même temps, ça rend bien service à la commandante Bello. Voilà, mais c'est justement, ça porte bien son nom, c'est enquête parallèle. Elle fait les choses en parallèle et à sa façon, donc, comme vous dites, avec beaucoup de fantaisie.
Ouais, et puis des fois, elle va plus vite même, hein, que la police.
Bah, je pense qu'elle va plus vite parce que justement, elle ne prend pas les précautions que les gendarmes, les gens de loi sont obligés de prendre. Donc, elle tente des choses qui sont, voilà, un petit peu border et qu'un gendarme ou qu'un commandant ou une commandante ne pourrait pas se permettre.
En tout cas, c'est une jolie collection. Maintenant, on a le droit à 2 épisodes environ par an et c'est toujours un bonheur de renfiler un peu le costume de Fred chaque année, du coup, maintenant.
Ah oui, 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 tout à fait, parce que c'est un personnage éminemment sympathique. Moi, j'aime beaucoup ce que je faisais déjà avec les crimes en région. J'aime beaucoup comme ça les tournages implantés dans une région, ce qui est le cas là, puisqu'on est dans la région Rhône-Alpes, vers Lyon. Puis surtout, on a créé aussi une famille de femmes. C'est assez joli, je trouve, puisque je vis avec ma mère et ma fille. Et avec ces 3 femmes vit mon caméraman, qui est un homme lunaire, poétique, différent, voilà. Et je trouve que c'est une très jolie famille recomposée et qui est présente à chaque épisode, quoi, qui est récurrent avec moi. Et ça, c'est très joli parce que ça permet aussi d'autres moments qui sortent de l'enquête, qui sont des moments plus familiaux, plus intimes, plus émouvants.
Et oui, surtout qu'en plus, elle va devoir aussi faire face à une arrivée de taille dans la vie de sa fille, dans la vie de Rosa, d'un petit copain. Et oui, dans cet épisode.
Mais voilà. Ouais, voilà. On va pas trop en dire, mais le petit copain qui va amener en tous les cas, qu'elle croit être des problèmes, mais qui vont se révéler plus intéressants que de simples problèmes. Voilà. Mais bon, faut pas trop en dire parce qu'il y a un petit peu une.
On va découvrir comment Fred va réagir à tout ça. Voilà.
Voilà, 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 voilà. Mais ce que j'aime bien, c'est ce côté familial, quoi. Ça, j'aime beaucoup.
Oui, c'est vrai que ce côté familial, on va l'évoquer dans un instant parce que Florence, juste à côté de moi, dans quelques instants, Thierry Binisti et Macha Meryl vont nous rejoindre. On va continuer à en parler aussi. On va parler un peu du sujet principal. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets dans ce film qui viennent en filigrane. On a les violences faites aux femmes. On a aussi les violences que les élus subissent aujourd'hui puisque c'est une enquête qui va être menée. Et c'est maman qui va être un peu au cœur au début à travers une inauguration, on va dire, pour elle. D'une action en faveur des femmes victimes de violences conjugales qui va être mise à mal par le meurtre du maire du village.
Absolument, voilà, au profit d'un projet, disons, plus financier qu'une maison consacrée aux violences faites aux femmes, oui.
Alors justement, juste avant d'accueillir Thierry et Macha pour évoquer cet épisode un peu plus en profondeur, on va parler de celui du 10 aussi, puisque le 10 janvier, il y aura un épisode avec David Bayot aussi, qu'on va avoir plaisir à voir.
Ah oui, oui. C'était très festif, très joyeux, parce que David est une personne solaire. Enfin, non pas que Isabelle Vitari ne le soit pas, mais c'est vrai qu'il y a chez David quelque chose de très solaire, de très dansant, de très joyeux.
Ah, oui, et très gentil en plus, c'est un garçon très gentil.
Et là, c'était assez rigolo aussi parce qu'il ne supportait pas les actions parallèles de Fred. Et ça a amené à beaucoup de piques chien et chat, quoi, à beaucoup d'antagonisme. Mais c'était bien, c'était vraiment super. Et c'est réalisé par Christophe Paturange qui a vraiment opté pour une version très comédie, très joyeuse.
Oui, c'est ça qui est bien aujourd'hui, c'est que dans les enquêtes et on va de plus en plus vers la comédie policière, ce qui fait que je trouve que ça intéresse de plus en plus du coup les gens de découvrir une enquête, mais aussi d'avoir des moments, des soupapes de rire, ça fait du bien aussi. Et vous, sur le tournage, j'imagine que ces séquences de comédie sont peut-être des fois plus difficiles à mettre en boîte. La comédie, c'est connu pour ça, c'est toujours un peu plus pointu.
Oui, après, si vous voulez, faut que la comédie soit sincère, toujours. Il faut pas faire de la comédie pour faire de la comédie. Il faut vraiment qu'il y ait une sincérité et qu'elle vienne de la situation et non pas des personnages, si vous voulez, on n'est pas des clowns. Enfin, bien que les comédiens soient de grands clowns, mais ce que je veux dire, c'est que les personnages, que ce soit Fred, que ce soit la commandante, le commandant à travers David, etc., c'est les situations qui vont faire rire et la façon dont les personnages les traitent. Il faut pas faire rire pour faire rire. Il faut que le tempo soit là et que la situation soit juste et que nous, à l'intérieur de cette situation, on soit sincères. Et je pense que c'est ça qui crée vraiment le sourire, peut-être plus que le rire.
Oui, et puis surtout quand il y a en plus des enquêtes qui sont sérieuses, il faut que ça soit savamment dosé tout ça.
Voilà, il faut quand même rester, voilà, exactement, savamment dosé, c'est exactement le mot, parce que derrière il y a quand même voilà des gens qui ont été ou assassinés ou agressés, ou donc on est quand même dans cette chose-là, mais c'est vrai que c'est un savant équilibre pour que le spectateur y prenne du plaisir. Voilà, il y a des séries policières qui sont plus noires mais qui partent sur un autre scénario, je dirais, ou une autre façon de voir la police, qui est sans doute bien plus juste que la nôtre. Voilà, mais après c'est un parti pris de la production, de la chaîne et des scénaristes, et de fait ensuite de nous. C'est une volonté particulière d'aller vers ces comédies policières. C'est-à-dire que je pense que la télévision aujourd'hui offre un large éventail de ces séries policières qui vont de la série plus noire, plus complexe, plus dramatique, à ces séries qui sont plus légères et qui sont vraiment, encore une fois, un divertissement. Il faut le prendre comme tel. C'est un divertissement. C'est un bon moment. Voilà.
Et c'est super bien dosé, en tout cas dans Enquête Parallèle, à chaque fois c'est un grand plaisir de retrouver d'une un épisode en rediffusion, si vous l'avez pas vu, c'est donc mercredi soir à 21h10 sur France 3, et deux épisodes inédits qui nous attendent, ça sera donc samedi prochain Liberté, Égalité, Fraternité à 21h10, et le 10 janvier il y aura un autre épisode avec David Bayon. On termine par les projets, Florence, pour 2026, qu'est-ce qui vous attend?
Alors 2026, il y a le tournage donc de deux autres enquêtes parallèles, et je serai au théâtre en septembre d'une pièce que j'ai créée cette année en 2025. En juillet, qui est une pièce américaine qui s'appelle Still, avec un partenaire qui s'appelle Bernard Malaka, avec qui j'ai déjà joué Le Huitième Ciel de Jean-Philippe Daguerre. Voilà, donc je serai à Paris en septembre, et en 2027 je serai en tournée en France et Belgique et Suisse.
Eh bien, c'est bien occupé tout ça.
Voilà.
C'est impeccable.
Oui, c'est bien occupé, voilà.
Bon, Florence, en tout cas, je vous souhaite une très très belle fin d'année 2025. On est à deux jours du réveillon, donc passez en tout cas de très belles fêtes et une très belle fin d'année. On vous retrouve l'année prochaine, c'est le cas de le dire, hein. C'est dans six jours,
voilà,
pour un inédit d'Enquête Parallèle. Thierry Benisti et Macha Meryl s'installent à mes côtés. On va lancer un petit extrait d'Enquête Parallèle et on se retrouve juste après pour la suite de notre spécial. Merci beaucoup, Florence. À bientôt.
Merci, belle fête de fin d'année.
Colette Chaperot, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes aujourd'hui à la mairie de Talhuyay et vous allez bientôt recevoir une subvention du maire. Cette subvention va servir à attaquer enfin les travaux de rénovation de la future maison des femmes de la commune.
Expliquez-moi. Absolument. Aujourd'hui, c'est un très grand jour. Grâce à monsieur le maire Pierre Fournier, cette ancienne bâtisse historique va devenir cette splendide maison des femmes. Un endroit qui offrira aux femmes victimes de violences un soutien essentiel, à la fois psychologique, médical et juridique. Un lieu où leur parole sera prise en compte.
Et notre coup de cœur télé est consacré à Enquête Parallèle, qui revient pour un tout nouvel épisode inédit, et avec un épisode qui s'intitule Liberté, Égalité, Fraternité, et avec un sujet très d'actualité justement, qui concerne nos élus, et c'est Thierry Benisti qui est aux manettes de cet épisode. Bonjour mon cher Thierry.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous, et puis alors t'es venu carrément avec la maman de l'héroïne, franchement c'est génial, Macha Meryl est avec nous, bonjour Macha.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être là tous les deux. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui fait beaucoup parler, les violences faites aux élus, et là il y a plein de sujets qui viennent se percuter un peu dans cet épisode, les violences conjugales, les violences faites aux élus aussi, puisque un maire va être retrouvé d'une balle dans le dos, tué. Alors que s'est-il passé? Parce qu'évidemment, aucun maire n'a que des amis, autrement ça se saurait, mais il va falloir faire un peu la lumière sur tout ce qui s'est passé effectivement pour retrouver le meurtrier. C'est toute une enquête qu'on va suivre tout au fil de l'épisode.
Exactement, et c'est Florence Pernel, donc, qui joue le personnage de Fred Chaperot, qui est journaliste et qui fait équipe dans cet épisode avec la commandante de gendarmerie, qui sera interprétée par Isabelle Vitari.
On retrouve Jean-Baptiste Chelmerdine, ça c'est drôle, c'est nos chers voisins.
Voilà, exactement. Et du coup, c'est comment une journaliste et une commandante enquête, mais pas sur le même terrain exactement, c'est-à-dire que la journaliste peut aller là où la commandante ne peut pas aller et vice-versa.
C'est ça le but d'Enquête Parallèle.
Exactement, c'est là-dessus que ça fonctionne, c'est-à-dire c'est le travail de la journaliste qui arrive à rentrer, à faire des choses qui sont pas complètement dans les règles de l'art de l'enquête officielle, qui est souvent en avance sur la police ou sur la gendarmerie.
Comme quoi, des fois, quand on n'est pas toujours forcément dans les clous, on avance plus vite.
Bah ça, voilà, c'est un petit peu aussi comme ça que ça peut fonctionner, tout à fait.
Bon, Macha, depuis le début de cette aventure, la maman de Florence Pernelle, de l'héroïne, dans cette série, qu'est-ce qui t'a plu en premier, Macha, dans ce rôle et dans cette collection ?
Alors moi, c'est la première fois que je participe à une série. Je l'ai fait par amitié pour Florence. Florence a débuté pratiquement avec moi quand elle était toute jeune dans une série qu'on avait faite en Argentine. Je te dis pas il y a combien d'années, peut-être, je crois que c'est 40 ou 50. Enfin, c'est épouvantable ce que le temps passe. Et donc, quand elle m'a proposé ça, d'ailleurs, c'est une idée de Stéphanie Pilonka qui a été la première réalisatrice et qui, en me voyant au théâtre, a dit « Ah ben là, voilà, je veux une maman comme ça, c'est-à-dire une femme de ma génération qui soit pas une pleureuse, qui soit dynamique, qui soit une femme qui incarne les femmes de ma génération, c'est-à-dire qui ont fait 68, qui ont milité, qui ont été des femmes assez indépendantes, assez émancipées. » Et donc le sujet est liberté, égalité, fraternité, c'est sur le frontispice des mairies. Et donc il y a un maire sympathique, intelligent, il y en a, et beaucoup même, qui me soutient pour créer une maison des femmes, pour aider les femmes battues et les femmes en difficulté dans leur couple. Et puis évidemment, il arrive un tas de déboires, ce qui fait que cette maison ne se fait pas, et puis je ne donne pas la fin de l'histoire. Mais en général, ces épisodes finissent toujours assez bien, c'est-à-dire c'est pour donner un peu de l'espoir sur comment la France fonctionne. La France est un grand beau pays où les choses se font quand même. Alors, il y a des grincements, des difficultés, mais quand même, il faut avoir beaucoup voyagé comme moi pour se rendre compte à quel point...
On a de la chance.
On a de la chance. Et nous avons un metteur en scène chevronné qui nous a fait un bijou de cet épisode. C'est le 4e épisode.
Et oui, Thierry, qu'est-ce qui t'a fait dire oui, justement ? Tu connaissais la collection ? T'as regardé les 3 premiers avant pour voir un peu... Voilà, comment ça se passait, comment étaient un peu ancrés les personnages dans leur rôle?
Alors évidemment, j'ai regardé les 3 premiers parce que quand on s'inscrit comme ça dans une collection, faut respecter une grammaire qui a déjà été posée avant nous. Mais il y a la liberté aussi d'amener son regard, d'amener...
Son grain de sel?
Ouais, son grain de sel, sa patte. Et effectivement, c'est ce qui se passe en plus naturellement. Mais c'était surtout la rencontre avec les comédiens. Quand j'ai vu cette famille qui existait, Macha Merrill, Florence Pernelle, Jean-Baptiste Lemerdine et la jeune Jessirielle Bassango, donc une belle famille qui préexistait, c'est pas moi qui ai fait le casting, là, le casting existait déjà, j'avais envie de devenir le 5e élément de cette famille.
Macha, est-ce qu'on pouvait trouver mieux que toi pour incarner ce rôle? Non mais c'est vrai, tu parlais de femme dynamique, bien ancrée dans son époque, d'une beauté éblouissante, je crois que tout le monde le dit dans le métier. Macha Merrill, elle est incroyable. Et c'est vrai que, est-ce qu'on pouvait trouver mieux comme maman de Florence Pernelle, Thierry?
Alors moi, je ne pense pas. Effectivement, je pense que c'est un casting qui est d'un équilibre absolument incroyable. Et surtout, il y a un point commun qui a été trouvé dans tous les comédiens, c'est leur joie d'être là, leur joie d'être tous les jours sur le plateau, leur inventivité, c'est-à-dire que j'étais moi le premier spectateur de ce qui se passait, où à chaque scène, à chaque plan, ils arrivaient à inventer quelque chose. Et cette joie dont je parle, elle se retrouve dans le regard de chacun des comédiens, en particulier dans le regard de Macha, dans l'expression, dans la tournure de chaque phrase, ils arrivent à mettre cette énergie qui leur ressemble.
Vous comprenez, moi, je suis une vieille de la vieille, hein, sans film, autant de téléfilms, du théâtre, etc. Donc ça me fait plaisir d'apporter mon expérience, mais aussi d'apporter un message très particulier, que la vieillesse n'est pas une calamité. On peut être vieux et être très intéressant, même sexy, et même avoir des notions nouvelles de ce que c'est cette grande partie de la fin de vie, parce que ça commence à 60 ans quand on est à la retraite, mais il y a encore 40 ans derrière, hein, parce que maintenant les gens sont tous centenaires. Donc c'est un peu ça mon message. La télévision est la juste place pour ce genre de message. Parce que je pense que notre public n'est pas le public très jeune. Ça les touche et je suis contente de leur parler.
Oui, c'est vrai que voilà, leur parler c'est important et puis aujourd'hui ça maintient ce lien aussi très fort entre des actrices comme toi et le public qui t'aime tant aujourd'hui finalement.
Oh bah, qui m'aime ou pas, j'en sais rien, c'est pas à nous de juger de ça. Nous, ce qu'il faut, c'est qu'on aime ce qu'on fait, c'est-à-dire le sujet, le rôle qu'on interprète. Alors moi, je suis un peu une actrice un peu spéciale, c'est que je ne suis pas capable d'être autre chose que moi-même. J'amène des choses de moi. Je ne suis pas, j'aime pas me transformer, devenir comme ça des personnages qui sont loin de moi.
Pourtant, t'as joué des rôles tellement différents dans ta carrière.
Oui, mais quand même que si on regarde de près, même quand je jouais Colette ou que je jouais les films de Dario Argento qui sont des films d'horreur ou je sais pas quoi, j'ai toujours amené une notion de ce que doit être une femme. à tous les âges. Parce que la carrière d'une actrice, c'est ça. Hein, ça commence tôt, puis après, t'as, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Et ce que j'aimerais, c'est que ça ne s'arrête jamais.
C'est quoi le secret, Macha, de cette jeunesse éternelle, je dirais presque, de cette jeunesse d'âme aussi?
Alors, un, c'est la passion pour ce qu'on fait, puis c'est surtout s'entourer de personnes agréables. Moi, j'ai rayé de mon carnet tous les emmerdeurs et tous les gens avec qui je ne suis pas d'accord.
C'est ça le secret?
Je pense. Et donc, c'est aussi une question d'âge, parce que il faut d'abord savoir qui sont les types nuisibles que tu dois
les repérer.
Éliminer de ton carnet, tu comprends? Et donc, ça, c'est déjà une première règle. Et puis, il y a d'autres règles qui sont aimer la vie, c'est-à-dire aimer tout. Je suis œnologue, je suis cuisinière, je pense qu'il faut faire l'amour, je pense qu'il faut ne jamais s'arrêter.
S'intéresser à tout.
Et s'intéresser à tout, et surtout maintenant, beaucoup à la politique. Comme tu sais, je passe quelquefois sur LCI, parce qu'on m'interroge sur ces questions-là, parce que je pense que les femmes de ma génération ont des opinions bien arrêtées, et que c'est bien pour les jeunes.
Thierry, c'est incroyable d'avoir quelqu'un comme Macha sous sa direction, non ?
Absolument, c'est incroyable. Et là, on a encore la preuve du cadeau que moi j'avais tous les jours sur le plateau, c'est-à-dire de recevoir comme ça des bouffées d'oxygène, des bouffées de joie de vivre, et ça me nourrissait. Donc effectivement, je n'ai qu'une envie, c'est
d'éliminer tous les imbéciles de ton répertoire.
C'est qu'on recommence dès demain.
Non, mais alors ça, je vais dire quelque chose que disait Michel Legrand. Qu'on ne peut s'entendre qu'avec des gens du même niveau. C'est-à-dire, pourquoi ça a très bien fonctionné? Parce que lui, sa grande expérience et son talent, mais sa curiosité, et moi kiff. Donc, et je pense que Florence aussi, elle a tellement tourné, elle a tellement fait de choses que elle en est à ce point-là de sa carrière. C'est-à-dire le plaisir de continuer à inventer, de continuer à mettre toute notre expérience au profit de ce que l'on fait. En fait, nous, on veut être ensemble pour faire des choses belles. Voilà.
Inventons ensemble, effectivement, Enquête parallèle, liberté, égalité, fraternité débarque sur France 3 pour un nouvel épisode inédit de cette collection, évidemment, qu'on va continuer à suivre. Merci Thierry, merci Macha d'avoir été avec nous et on vous dit à bientôt.
À très bientôt.
À bientôt.
Alors, la victime, Pierre Fournier, était célibataire.
De la famille?
Non, fils unique, ses parents sont morts il y a une dizaine d'années.
Vous avez des gants?
Il a été abattu dans le dos par un tir de chevrotine quasi à bout portant. Il devait porter des bûches chez lui au moment de l'impact. Sinon, visiblement, il vivait seul. Enfin, c'est ce que nous a dit la femme de ménage qui a découvert le corps.
Nicole Granger.
Voilà, Nicole Granger.
Il tournait le dos à son meurtrier. Il connaissait la personne qui lui a tiré dessus.
Ah bon?
Bah oui, on tourne pas le dos à un homme armé, ni à une femme d'ailleurs. Sauf si on a confiance.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle fin d'année 2025. J'espère que vous allez bien en profiter, soyez prudents. Et puis on se retrouve en pleine forme lundi prochain pour démarrer 2026. Ensemble avec la première de l'année 2026, on recevra Julie Sassoust, l'interprète Anaïs dans la série Si tout commence. Et sera à l'affiche de la série Le Diplôme dès le 12 janvier prochain. Julie sera notre invitée d'honneur. Spécial Il était deux fois nouvelle série de France 2. Et puis notre coup de cœur ciné sera consacré à Ma Frère. Nous recevrons les deux réalisatrices et les deux héroïnes principales. Un rendez-vous à ne pas manquer.
Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Et je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de pots gourmands Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Chute, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.